à tous. Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Alors nous avons laissé Fouché libre. Simplement, on l'invite à se tenir tranquille, mais en tout cas, il n'a pas d'emploi. Alors, à la suite de la Convention pour diriger la France, hein, il y a maintenant le directoire. Et à la tête du directoire, il y a 5 directeurs. Je ne vous donne que le plus important à l'époque, donc c'était Barras. Barras, c'était un noble, hein. En même temps noble et régicide, on peut dire. Et ce noble-là, cet ancien noble, reçoit fastueusement dans son château de gros bois, si ça vous dit quelque chose. Et il fait des affaires. Bon, on ne va pas s'apesantir parce que les affaires sont un peu bizarres quelquefois. Mais Barras, c'est une tête politique. Et Fouché obtient de lui une commission du gouvernement pour la surveillance et le départ des conscrits dans les départements du Sud-Ouest. Alors pourquoi les conscrits ? Eh bien parce que la France est encore en guerre. Elle est en guerre contre l'Autriche et l'Angleterre. Donc voilà, Fouché parti. Et il fait absolument tout pour se faire bien voir. Il habite Saint-Leu-la-Forêt, une jolie petite maison. D'ailleurs, c'est là que meurt sa deuxième fille, Evelina, le 23 juillet 1796. Le 12 mars 1757, naît son premier fils, Joseph. Mais comme on est sous la Révolution encore, il va l'appeler Joseph Liberté. Après, il aura deux garçons et une fille, et ceux-là vont survivre. Alors, je vous dis que il fait tout pour se faire bien voir, Fouché, et en particulier, il joue les mouchards pour Barras, et Barras le paye, bien sûr. Alors, au passage, n'oublions pas quand même que Fouché a conservé sous la Révolution l'essentiel de la fortune familiale, et cette fortune familiale, elle n'est pas des moindres. Hein. Et puis en plus, il dépense peu. 18 fructidors de l'an 4, je vais vous traduire, 4 septembre 1797, coup d'État. Au lieu de 5 directeurs, il n'en reste plus que 3. Ce sont Barras, Rebelle et La Révellière. Et Fouché a aidé, mais toujours en sous-main, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas montré. Dans les premiers mois de 1798, Joseph semble être partout. Et on dirait, on a l'impression qu'il se multiplie comme par enchantement. Et à force de rendre toutes sortes de services à Barras et à d'autres, il obtient une ambassade, l'ambassade à Milan. Eh bien, le revoilà sur les marches du pouvoir. Il est bien décidé à en tirer tous les avantages. Donc, il part pour l'Italie. Alors, les beautés de l'Italie, ça ne l'émeut pas du tout. Pour lui, c'est le pouvoir et l'argent. Il va faire des affaires et se mêler de la façon de gouverner le directoire. Si bien qu'il s'en mêle tellement bien qu'il est sur le point d'être arrêté. Alors, comme d'habitude, il se sauve, il rentre à Paris, il se cache quelques jours, et comme d'habitude, on fait semblant de l'oublier. Barras le garde en réserve. Le 18 juin 1799, remaniement du directoire. Sieyès. Alors, je vous rappelle qu'il a habité Chartres dans une maison en bas de la rue de l'Étroit Degrés, et qu'il était grand vicaire de Chartres. D'ailleurs, il a écrit un livre extrêmement intéressant, « Qu'est-ce que le tiers-état ?» Et il avait écrit ça dès 1789. Donc, Sieyès fait partie, avec Barras, de ce nouveau directoire. Il apprécie Fouché, Sieyès, et finalement, d'accord avec Barras, il l'envoie à La Haye représenter la République française et lui dit qu'il aura un poste ministériel un jour. Donc Fouché s'en va à La Haye, et là, il envoie un grand rapport au directeur sur la situation intérieure de la République française, et il y évoque la police, et il dit qu'il faudrait bien réorganiser tout ça. Il est convaincu, ça il ne le dit pas dans le rapport, mais lui, il est convaincu que désormais, la Révolution ne pourra se consolider que par une main de fer. Il pense que le directoire, c'est un régime faible, en quoi il n'a pas tort. Hein. Il dit qu'il faut agir au lieu de délibérer en vain sur la meilleure des constitutions. Et, dit-il, il faut un homme fort. Alors Bonaparte est loin, donc il pense à un autre militaire, Joubert, qui est à la tête de la division militaire de Paris. Il ne reste pas longtemps à La Haye. Le voilà revenu parce que Barras remanie le gouvernement. Et là, il est tout content, Fouché. Car Barras le nomme à la tête de la police. Il a 40 ans, Fouché. et il gardera cette situation plus de 10 ans. On peut dire que ce sera un véritable deuxième pouvoir au cœur de l'État. Alors il s'installe dans l'hôtel du ministre de la Police au début d'août 1799. Alors ce n'est pas n'importe quoi comme maison, c'est l'un des hôtels les plus prestigieux du Faubourg Saint-Germain. Il y loge avec sa famille, et le voilà donc, ministre de la Police. Il le sera encore d'ailleurs sous le Consulat et sous l'Empire. Alors quand on est convoqué dans le cabinet du ministre de la Police, il donne l'impression de vous connaître depuis toujours, il vous apprivoise, il finit par obtenir de son interlocuteur beaucoup plus que celui-ci avait l'intention de lui dire. On peut dire qu'il possède à un degré extrême l'art du mensonge. Il ment sans cesse et à tout le monde. Et quand il parle, c'est pour mieux brouiller les pistes. Eh oui, les gens pensent quand même qu'il est inquiétant. Parce que d'un seul coup, il se tait et il vous fixe de ses yeux morts. Il badine facilement, mais avec un badinage féroce. Au comte de la Ferronnays, qui sous la Restauration lui demande ce qu'il aurait fait s'il avait été arrêté comme conspirateur sous le directoire, eh bien il lui répond « Je vous aurais fait fusiller ». Si on peut résumer, on dit de lui que c'est un renard doublé d'un caméléon. Donc il constitue son ministère, il y place des hommes de confiance, tels Étienne de Villiers du Terrage, 24 ans, c'est un jeune homme de talent, d'une famille distinguée, d'une éducation soignée, intelligent, discret, opportuniste et modéré. Le ministre l'estime parce que c'est un gros travailleur. C'est à lui que Fouché confie les missions les plus secrètes. Il deviendra ailleurs pair de France sous la monarchie de Juillet. Tous ceux que le ministre embauche sont liés soit aux affaires, soit à la presse. Et l'argent. Il dit que son prédécesseur a laissé les caisses vides. C'est faux. Il ajoute que la police a besoin d'argent. Alors, où est-ce qu'on va le chercher cet argent? Eh bien, figurez-vous que cet argent va provenir des maisons de jeux. L'argent des jeux va alimenter les fonds secrets du ministère. Lorsqu'on apprend par les journaux qu'un complot a été découvert, on disait « Ah ! Fouché va s'acheter une ferme !» Fouché utilise des espions dans tous les milieux, y compris des prêtres défroqués sortis de l'oratoire, qu'il connaît bien, hein. Ils sont payés sur les fonds secrets. Je vous disais tout à l'heure que le directoire était un gouvernement faible. Oui, on peut même dire qu'il est à l'agonie. Donc, on compte sur le général Joubert pour un coup d'État. Manque de chance, si on peut dire. Le général Joubert meurt en Italie. Nous allons faire une première pause musicale. Alors, on cherche un autre général. Bon, Moreau, il est trop faible. Masséna, il est en train de se battre en Suisse contre les Russes. Et Brune, lui, il est en train de se battre contre les Anglais en Hollande. Alors, voilà que Bonaparte débarque à Antibes. C'est un véritable coup de tonnerre. C'est une remontée triomphale jusqu'à Paris. Barras et Sieyès prennent peur et ils songent même à le faire arrêter. Bonaparte arrive le 14 octobre 1799 et il se présente au directoire. Ah oui, on a pensé à le faire arrêter, mais dès qu'il arrive, on l'embrasse. Qu'en pense Fouché? Eh bien, Fouché, il n'aime pas Bonaparte. Il a jugé tout de suite que l'homme est trop politique, qu'il a trop d'ambition et trop de goût pour le pouvoir. Et d'ailleurs, il l'a dit à Barras. Eh bien, pour être franc, Bonaparte n'aime pas Fouché non plus. En attendant, ce dernier prépare le coup d'État. C'est prévu pour le 18 Brumaire. 18 Brumaire, c'est 9 novembre 1799. Fouché est parfaitement au courant, grâce à ses espions, bien sûr. Il fait même répandre dans Paris des bruits favorables à Bonaparte. Le coup d'État réussit. Ça conduit à un nouveau régime. Bonaparte est le premier consul avec Cambacérès et Lebrun. Seulement, ils sont trois jusqu'à ce que la constitution de l'an 8 en décembre paraisse. Alors, il devient premier consul, c'est-à-dire il y a les deux autres finalement, ils vont inaugurer les chrysanthèmes. Il garde Fouché comme ministre de la police, car il est préféré de l'avoir sous ses yeux. Il met la presse sous son contrôle, et dès le mois de décembre, Bonaparte se lance dans toute une série de décrets. La liberté des cultes est rétablie, les églises sont rouvertes, les prêtres n'ont plus à prêter serment, les nobles et les parents d'émigrés recouvrent leurs droits. Alors Fouché, lui, il n'est pas content du tout de ça. Il multiplie les moyens de renseignement, il a des espions partout, mais y compris au courrier, y compris dans les banques. Il a même un cabinet noir qui décachette, qui décode, qui recopie, qui recachette. On peut dire que ce sont les écoutes téléphoniques de l'époque. Il a des agents à Londres pour surveiller les émigrés royalistes. Il crée des préfets, des commissaires de police dans les villes de moins de 5000 habitants, un préfet de police à Paris et des commissaires généraux de police dans les grandes villes. Les fonctionnaires ne sont plus élus, mais nommés par le pouvoir. Alors Bonaparte écoute Fouché, qui le bombarde de notes et de rapports sur l'organisation de son ministère et le rôle de la police. En mai 1800, le régime est encore précaire. La France est toujours en guerre contre une bonne partie de l'Europe et surtout contre l'Autriche. Bonaparte alors part pour l'Italie et il y bat les Autrichiens à Marengo le 14 juin 1800. Les Autrichiens signent une convention d'armistice. Fouché pense que Bonaparte a été tué. Et que s'il était tué, même s'il ne l'a pas été, mais s'il était tué, on pourrait peut-être le remplacer par Bernadotte. Eh bien, on sait que Bernadotte va avoir un autre destin, puisqu'il va devenir roi de Suède et de Norvège à l'époque. Le 24 décembre 1800, 20h15, Bonaparte quitte les Tuileries en voiture pour se rendre à l'opéra. Il veut y écouter la création de Hind. Et soudain, une explosion énorme retentit. Le premier consul n'a rien, mais les dégâts sont considérables. Il y a une vingtaine de tués, une centaine de blessés. Toutes les vitres des Tuileries sont brisées. Fouché, lui, est déjà à l'opéra quand Bonaparte y arrive. Les explications ont lieu, mais plus tard, aux Tuileries. Fouché consulte ses fiches et il dit qu'il a son idée sur l'origine de l'attentat. Les Chouans, les Vendéens, sont encore à Paris parce qu'ils y ont encore des réseaux. Et dans l'esprit de Bonaparte, lui, il dit plutôt que c'est l'attentat est du ressort des Jacobins, les anciens de la Convention, qui ne sont pas contents que Bonaparte ait pris le pouvoir. Alors Fouché laisse le premier consul faire déporter une centaine d'entre eux, ça ne l'aime pas trop, mais il continue son enquête et il remonte, c'est lui qui avait raison finalement, il remonte jusqu'à des officiers de Georges Cadoudal. Ils sont condamnés à mort et exécutés le 21 avril 1801. Pendant les deux premières années du consulat, Fouché va avoir comme champ de bataille deux champs de bataille, les émigrés et le clergé. Parce que Bonaparte a fait des édits, mais lui, Fouché, il n'est pas tout à fait d'accord. Alors, ils sont des milliers à revenir en France, surtout pour des raisons économiques, ben oui, parce qu'ils voudraient bien retrouver leurs biens. Et certains ont combattu la France avec les armées étrangères. Alors Fouché décide qu'on traitera les demandes au cas par cas. Pour lui, ils sont dangereux, ces émigrés, car ils peuvent inquiéter ceux qui ont acquis leurs biens, bien sûr. Le premier consul, lui, il a du goût pour la noblesse, pour la bonne éducation, pour l'ancienneté des services. En fait, Bonaparte a besoin d'une noblesse pour l'accomplissement de son dessein. On sait bien ce qu'il veut faire. Il va prendre d'anciens nobles d'ailleurs à son service. Alors pour Fouché, lui, tout ce qui ressemble à l'ancien régime, ça le hérisse littéralement. Officiellement, il approuve Bonaparte, mais comme toujours, en sous-main, il fait ce qu'il faut pour gêner la politique du premier consul. Ce dernier promulgue la loi d'amnistie le 26 avril 1802. Elle est accordée aux émigrés qui rentrent en France avant le 23 septembre et prêteront serment à la Constitution. Ils devront renoncer à toute relation, fonction, titres et décorations reçus à l'étranger. Ils resteront pendant 10 ans sous la surveillance de la police. Alors ils s'en frottent les mains, Fouché. Demeurant tout au long de cette période passibles de mesures d'éloignement de 20 lieues de leur domicile habituel. Ils ne pourront en aucun cas attaquer les actes de vente passés entre la République et les acquéreurs de biens nationaux. Je vous rappelle que les biens nationaux, ce sont les biens du clergé qui ont été donnés à l'État. Les forêts sont déclarées biens républicains, ça ne va pas empêcher Fouché d'en acheter. Donc Fouché l'a emporté sur les questions financières. Sa duplicité fait qu'il va se lier d'amitié avec certaines femmes de la haute noblesse rentées des migrations. On ne sait jamais, ça peut servir. Il va finir par se créer un très solide réseau parmi l'ancienne noblesse. Selon Fouché, les autres ennemis de la République, ce sont les prêtres. Depuis le début du consulat, leur situation ne cesse de s'améliorer. Toutes les lois de bannissement prises contre les ecclésiastiques exilés ou déportés sous la Révolution sont abrogées. Cependant, les congrégations religieuses restent strictement interdites. Et Fouché, ça le fait grincer des dents, le fait que les prêtres rentrent et ne prêtent plus serment. Il applique les premières mesures en faveur des prêtres, mais de la façon la plus restrictive possible. Il les soupçonne de ne pas vouloir reconnaître les lois de la République et de prêcher pour les anciens rois. Il multiplie les mesures vexatoires. Alors on s'en plaint à Bonaparte, qui désavoue son ministre, mais il le désavoue en privé seulement. Fouché, lui, il veut vivre dans un monde sans cantique, dit-il, et sans cloche. Mais il mène là un combat d'arrière-garde. En effet, Bonaparte conduit des négociations avec le légat du pape, et il ne mêle pas Fouché à ces négociations. Nous allons faire une deuxième pause musicale.
Sibit clari.
Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et je suis en train de vous raconter la vie de Joseph Fouché. Nous sommes en ce moment en l'année 1801. L'administration générale des cultes est confiée au conseiller d'État Portalis et rattachée non pas à la police comme l'espérait Fouché, mais au ministère de l'Intérieur. Alors pour lui, c'est un véritable camouflet. Il lui faut aussi avaler d'autres couleuvres. Le 18 avril 1802, eh bien, il est convié à une grande messe, lui qui ne voulait plus remettre les pieds dans une église, de Te Deum à Notre-Dame en l'honneur de la paix religieuse. Et le ministre de la police, il est même au premier rang. Et puis il y en a un autre qui se trouve là aussi, qui fait le signe de croix. C'est Talleyrand. Talleyrand, ancien évêque d'Autun. Prêtre défroqué lui aussi. Ministre des Relations extérieures. Et on sait que Fouché déteste Talleyrand. Mais Talleyrand le lui rend bien. Alors il aurait bien voulu la place de Talleyrand, être ministre de l'Intérieur. On peut dire que leur origine est vraiment aux antipodes. Ils se ressemblent quand même par l'ambition. Ils ont le génie de la prévoyance, le goût de la manœuvre, des réseaux, l'ombre, le silence. Ils ont été complices à leur début sous le directoire. Ceux-là, Bonaparte, se garde bien de les rapprocher parce qu'il se dit « ensemble, ils pourraient être contre moi ». Alors qu'est-ce qu'il fait Bonaparte? Eh bien, il attise leur rivalité pour mieux régner, hein, diviser pour mieux régner. Il ne faut pas s'imaginer que les deux hommes ne se voient pas. Ils ne s'aiment pas, mais on les rencontre dans les dîners de leurs connaissances communes. Ils travaillent ensemble. On peut dire que leur guerre est quand même souterraine. Alors venons-en à Bonaparte. Il a changé depuis Marengo. Un diplomate écrit qu'il traite les affaires politiques comme les affaires militaires. Tout doit céder à son impatience et à sa volonté. Et avec, quand même, il a des points communs avec Fouché. Il a un esprit mathématique, le goût des choses précises, l'acharnement au travail, on sait qu'il dormait très peu, une excellente mémoire, des chiffres et des noms. Bonaparte était capable de dicter 5 lettres différentes en ne se trompant pas du tout. Bonaparte aime bien la conversation de Fouché parce qu'il adore les commérages, les anecdotes scandaleuses sur ses proches et même sur sa famille. C'est la façon du ministre de la police de faire sa cour. En tout cas, en 2 ans, ce dernier a abattu un travail considérable. On a une police de plus en plus efficace, des routes plus sûres, des journaux qui sont aux ordres, des complots désamorcés partout, plus de disciples, de contrôle, de surveillance. Et Bonaparte est parfaitement conscient du rôle joué par son ministre de la police en matière de répression et de sécurité. Le 2 août 1802, le Sénat confère à Bonaparte le pouvoir perpétuel, entendons-nous pour l'instant en tant que premier consul. Il est nommé consul à vie et peut désigner lui-même son successeur. Oui, ils ont fait ça parce que pour l'instant, Bonaparte, qui est marié, n'a pas d'enfant. Il voit là un moyen d'accroître ses pouvoirs et sur ce plan, son ministre de la police le gêne. On peut faire confiance à Talleyrand pour l'en persuader. Ajoutons que les frères du consul n'aiment pas du tout Fouché non plus. Voilà plusieurs semaines que Bonaparte dit que pour montrer la force de son gouvernement, ce serait bien de supprimer le ministère de la police. Le 13 septembre, à la Malmaison, après avoir travaillé avec Fouché sans lui dire un mot, le consul signe son arrêté de renvoi et charge Cambacérès de l'en avertir. Il n'a pas osé le faire lui-même. Ceci dit, Fouché n'est plus ministre de la police, mais il n'est pas chassé comme un chien. Ce serait tout à fait dangereux pour Bonaparte. Alors, on le couvre de compliments, d'honneurs, d'argent. Il est nommé sénateur. Le 16 septembre, le ministère de la police est récupéré par le ministère de la justice. Plutôt que renvoyer, Bonaparte utilise le terme de « suspendre ». Fouché, ben forcément, il est de mauvaise humeur. Mais il va pouvoir s'occuper plus à fond de ses affaires. Il a déjà acheté, écoutez bien, 700 hectares de terres labourables et de bois. Et de bois, j'insiste là-dessus parce que les forêts ont été déclarées appartenant à l'État. autour de son château de Pontcarré, sur la commune de Bussy-Saint-Georges, à Sauve-en-Seine-et-Marne. Il a une maison rue Saint-Jacques à Paris. Il y ajoute plusieurs grosses fermes en brie. Le 9 août 1806, il achète même le château de Ferrières. Il s'installe avec sa famille dans un très bel hôtel particulier, rue du Bac. Mais il y vit simplement. Il gâte beaucoup ses enfants qu'il élève dans un joyeux laisser-aller. Même répudié, Fouché reste une puissance. Il reçoit beaucoup, une société très mélangée où il y a de la grande noblesse. Pourquoi ? Parce que ça lui est une source de renseignements. Et il engrange tous ces renseignements-là parce qu'il dit « ça me servira un jour ». Il aime beaucoup quelqu'un qu'on connaît bien, Madame de Staël. Il la trouve extraordinaire, contrairement à Bonaparte qui ne pouvait pas le supporter. Bonaparte, lui, continue à consulter Fouché, en douce, j'allais dire. Et il lui fournit d'ailleurs, Fouché, encore des rapports réguliers. Les royalistes ont reconstitué leur réseau. Il s'agit ni plus ni moins, dit Fouché, d'assassiner le consul. On arrête à Paris Cadoudal, dont on avait déjà fusillé les officiers, et 44 complices, y compris le général Moreau. Le 28 juin 1804, Cadoudal est exécuté. Moreau, on l'exile aux USA. Ben oui, il avait quand même rendu plein de services pour l'armée. Bonaparte, informé par ses épions de la présence du duc d'Enghien, petit-fils de Condé, le fait enlever, disant qu'il fait partie du complot. Alors là, c'était une grosse faute, c'était pas vrai. Il le fait fusiller dans les fossés de Vincennes. Il avait vraiment tout à fait tort, car le duc d'Enghien était complètement innocent. Et on prête, alors on ne sait pas si c'est Fouché qui l'a dit ou si c'est Talleyrand qui l'a dit, en parlant justement du fait d'avoir fusillé le duc d'Enghien. C'est plus qu'un crime, c'est une faute. À la fin mars 1804, Fouché va jouer en faveur de l'Empire pour Bonaparte. Le 3 mai, le Sénat vote l'établissement d'un gouvernement impérial, héréditaire, confié à Napoléon Bonaparte et à sa famille. Il n'y a même pas eu besoin de coup d'État. Le 11 mai, Fouché est nommé parmi les 10 membres d'une commission spéciale chargée de préparer la loi qu'on appelle le Senatus Consulte qui doit modifier la Constitution et créer l'Empire. Et le texte est voté le 18. La République est maintenue, certes, mais Napoléon est déclaré empereur, non pas de France, mais des Français. Il tient désormais son pouvoir par la grâce de Dieu et les constitutions de la République. Le 2 décembre, il est sacré à Notre-Dame. Ce jour-là, il pense au maintien de l'intégralité du territoire de la République, à respecter et faire respecter la liberté des cultes, l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des biens nationaux et de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi. Ça, c'est ce qu'il disait au début. Hein. Ça ne va pas être du tout ça après. Bien sûr, au fur et à mesure du renforcement de l'Empire, tout ça, ça va devenir théorique. Fouché ne cache pas son mépris pour la cour, pour toutes ses fonctions, tous ses titres qu'on a oubliés depuis plus de 10 ans. Il sait bien, comme Napoléon, qu'on mène les hommes par des hochets, tout en les avilissant. C'était le cas de Louis XIV aussi. Hein. À force de bien et d'honneur, lorsque le pouvoir de Napoléon commencera à chanceler, on voudra les mettre à l'abri sous un autre que lui. Et c'est ce qui va se passer. Le 10 juillet 1804, Fouché a retrouvé un ministère renforcé et élargi. Et pour lui, ça vaut toutes les grandes dignités du monde. Il devient grand juge, ministre de la justice. Il va en faire un ministère tentaculaire. Il a autorité sur tout. Il sait ce que les autres ne savent pas, jusque dans le gouvernement, jusque dans l'Europe entière. Fouché est l'homme de la main de fer dans un gant de velours. Il s'agit d'abord de ne pas provoquer le peuple, surtout le peuple de Paris, d'assurer les approvisionnements en blé de la capitale, de surveiller les prix et les salaires. Fouché n'est pas seulement le patron d'une police surveillante et répressive, il est à l'origine de ce qu'on appelle maintenant les renseignements généraux. Napoléon continue à se servir des rivalités des uns et des autres pour mieux dominer, au risque parfois de se tromper. Avec le temps et les victoires, Napoléon devient de moins en moins abordable. Tout doit plier devant sa volonté. Dans ses lettres, lorsqu'il donne un ordre et qu'il est à bout d'arguments, il évoque son bon plaisir. On peut dire que Louis XIV n'aurait pas fait mieux. Fouché le flatte de plus en plus. Mais il a quand même le courage de lui parler franchement. Et Napoléon accepte ça de temps en temps seulement, parce qu'il arrive un moment où il ne le supportera plus. Son ministre, pour lui, n'en fait jamais assez. Il lui dit « Remuez-vous donc un peu plus pour soutenir l'opinion !» Il ajoute « Le ministre de la police est le ministre de ma personne !» Pourtant Fouché, qui est maintenant comte de l'Empire depuis avril 1808, devient duc d'Otrante en Italie. Hein, c'est dans le royaume de Naples. Et au moment où je vous raconte ça, Murat est roi de Naples. Décembre 1809, Napoléon divorce. Qui va être la nouvelle impératrice ? Fouché est informé qu'une des filles de l'empereur d'Autriche, Marie-Louise, est libre. Lui préférerait une alliance russe. Le tsar, par exemple, Alexandre III, il a une petite sœur qui ferait bien l'affaire. Talleyrand, lui, penche plutôt pour l'Autriche. Et c'est ce qui a lieu. Napoléon prend des mesures de plus en plus coercitives vis-à-vis de la presse, de la justice, et pour finir, il renvoie Fouché, à qui il fait une scène épouvantable le 2 juin 1810. Finalement, pour amortir la chute, il le nomme quand même gouverneur général de Rome. Il dit comment il va être loin, ça sera parfait. Dans son entourage, Napoléon dit « Il m'en a coûté de renvoyer Fouché, mais il m'était impossible de faire autrement. Il fait des choses trop importantes sans me consulter. » En apparence, Fouché fait profil bas, mais il rumine bien sûr sa vengeance. Il va y consacrer 5 ans. Le ministre déchu reste 10 jours à Paris avant de se rendre à Ferrières afin de préparer son départ pour Rome. Et pendant ces 10 jours, les salons de son hôtel de rue du Bac ne désemplissent pas de visiteurs venus lui témoigner leurs regrets. Eh bien ça agace Napoléon. Et lorsque Fouché est à Ferrières, il lui envoie la police pour récupérer tous ses papiers, dont certains peuvent être compromettants pour l'empereur. Fouché dit qu'il les a brûlés. Bien sûr, ça n'est pas vrai. Hein. Il finit par prendre peur, il se sauve en Italie, puis à Aix, c'est Aix-en-Provence, hein, où sa famille le rejoint. Et il est suffisamment adroit pour être bien renseigné sur ce qui se passe à Paris. Eh bien, nous allons faire une dernière pause musicale.
Thank you.
Donc, Fouché est bien informé de ce qui se passe à Paris. Le successeur de Fouché, c'est Savary. Eh bien, Savary, il a fini par trouver des papiers parce que Fouché n'a pas eu le temps de tout emporter. Et dans les papiers, on découvre un passeport que Fouché a signé à l'insu de Napoléon pour le frère de Napoléon, Lucien, qui partait pour les USA. Oui, il voulait sauver, petite parenthèse, parce qu'il avait épousé quelqu'un qui ne plaisait pas du tout à Napoléon. Et il dit, il vaut mieux que je m'en aille. Donc, il est parti aux USA. Napoléon pardonne à son frère, on va dire à moitié. Hein. La vie de la famille Fouché s'organise à Aix. Alors la famille habite le fastueux hôtel de Forbin. Tous les corps constitués viennent rendre visite à l'ancien ministre. Ils trouvent moyen de se faire adorer de toute la noblesse de la ville. Ils bombardent l'empereur de lettres. Il est prêt à tout pour revenir aux affaires. Après un an d'exil, il est autorisé à revenir dans son château de Ferrières. Il y habite en patriarche, discutant lui-même avec ses fermiers. Il refuse d'aller à la messe. Mais le curé de Ferrières, il a son couvert au château et Fouché lui verse un supplément de salaire tous les mois. Il fait la même chose. Il donne un supplément de salaire au maître d'école et à un médecin qu'il charge de soigner gratuitement tous les pauvres de son domaine. Vous voyez comme c'est curieux, hein ? C'est à Ferrières que meurt sa femme, Bonne Jeanne, le 8 octobre 1812. Et elle est beaucoup pleurée. En janvier, Napoléon a autorisé Fouché à venir à Paris. À son retour de Russie, Napoléon le reçoit, mais il ne lui propose rien. Alors qu'il est en campagne, l'empereur l'appelle auprès de lui par une lettre le 10 mai 1813, écrite de Drède. Fouché rencontre alors Metternich. Il aime bien Metternich. Metternich qui est donc ministre de l'empereur d'Autriche. Il le rencontre à Prague le 19 juillet. Alors on ne sait pas ce qui s'y est dit. Bon, je passe sur les défaites de Napoléon et son exil donc pour commencer à l'île d'Elbe. Fouché alors rentre à Paris et va se mêler de tout. Le roi qui est revenu, c'est donc le frère de Louis XVI, hein, Louis XVIII. Le roi, pour l'instant, il est encore à Londres. C'est son frère cadet, le comte d'Artois, celui qui va devenir plus tard Charles X, hein, qui doit faire le premier son entrée dans Paris. Il le fait le 12 avril. Fouché écrit à Napoléon qu'il juge trop proche des côtes françaises pour lui conseiller d'aller s'installer aux États-Unis. Plus il sera loin, mieux ça vaudra. Il s'arrange pour que le comte d'Artois voie la lettre. Évidemment, pour se faire bien voir du roi. Oui, mais avec le retour des Bourbons, c'est toute sa vie qui ressort du placard. Il le sait et il enrage. Ben oui, mais il fallait pas faire fusiller tout ce monde-là. Hein. On ne le menace pas encore, mais on l'écarte. Il s'installe alors à Ferrières et de temps en temps, il se rend à Paris où il est reçu par la noblesse. Toutes les décisions que prend Louis XVIII l'exaspèrent. On repart pour lui vers l'ancien régime. Il passe son temps à élaborer des projets, à écrire. Il a beau être en quarantaine, tout le monde le recherche et lui demande conseil. Partout, sa réputation le précède. Il sait tout. Il a des amis partout. Fouché est à Paris lorsque tombe la nouvelle du débarquement de Napoléon. Le ministre de l'Intérieur, à l'époque, qui est Montesquieu, fait appel à lui pour la police. Il refuse. Car il ne doute pas du succès de Napoléon. Voilà, il s'est trompé. Hein. À peine arrivé aux Tuileries, l'empereur convoque Fouché et il le renomme au ministère de la police. Tout en acceptant, Fouché complote avec les royalistes et il propose même à Napoléon d'abdiquer. Et c'est le désastre de Waterloo. Le 22 juin, Fouché voit celui qu'il a si longtemps flatté, si longtemps servi, si profondément haï. Il le voit tomber devant lui. C'est sa vengeance. Napoléon abdique. C'est Fouché qui, avec Caulaincourt, porte son abdication à la Chambre des députés. Il faut un gouvernement provisoire. Eh bien, Fouché est élu avec Carnot et le général Grenier, Caulaincourt et Quinette, un ancien régicide. Et c'est Fouché qui préside. Il va gouverner au nom du peuple français. Et Napoléon part pour Sainte-Hélène. Fouché alors s'entretient avec Wellington, son vainqueur. Ce dernier ne veut entendre parler que des Bourbons. Si bien que Louis XVIII rentre dans Paris, qui sera ministre ? J'allais dire qui seront ministres ? Fouché et Talleyrand, ministre de Louis XVIII. On prépare les élections. Sur 381 députés, 331 sont royalistes. Et l'on ressort les exactions des régicides. Voilà qu'à 56 ans, Fouché, finalement, est poursuivi pour ce qu'il a fait autrefois. Oh, il va s'en sortir, rassurez-vous. Et il se remarie. Il se remarie avec Ernestine de Castellane, une vieille noblesse. Mais elle n'est pas riche. Ça n'a pas d'importance. Elle a 27 ans. C'est une ambitieuse. Elle s'imagine qu'elle va avoir du pouvoir à travers son mari. Les royalistes crient au scandale. Le nouveau préfet de police, Élie Decazes, veut la tête de Fouché. Le roi commence à trouver son ministre beaucoup moins indispensable qu'il ne le pensait, parce qu'il a eu sous les yeux les rapports de ce que Fouché a fait pendant la Révolution. Si bien que Fouché, bon, il n'est pas arrêté, mais il est renvoyé. Le duc d'Otrante, puisque c'est son titre, quitte Paris avec sa femme pour Dresde, par Bruxelles, le 27 septembre 1815. Les enfants suivront. Il est renvoyé, quand je vous dis qu'il est renvoyé, hors de France. On n'en veut plus en France. Il est bien accueilli par le roi de Saxe, Frédéric Auguste Ier. Pendant ce temps, à Paris, on vote le bannissement à perpétuité des régicides. Donc il est hors de question que Fouché rentre en France. Quelques députés s'en sont pris directement à lui. La loi du 12 janvier précise que les individus touchés par cette loi sont tenus d'abandonner tous les revenus dont ils bénéficiaient, c'est-à-dire les traitements, les pensions, etc. Or, Fouché touche encore des émoluments de ses anciennes fonctions. Alors, il cherche un refuge. Mais il a une fortune personnelle suffisante, je vous rassure. Il cherche un refuge. Metternich lui propose Prague. Alors, il y écrit ses mémoires. Des mémoires qu'il arrange. Après Prague, la famille s'installe en Autriche à Linz, où elle arrive le 27 août 1818. Elle habite un très beau palais baroque. En décembre 1819, redéménagement, c'est Trieste, sur l'Adriatique. Il fréquente beaucoup, qui donc, à l'époque, qui se trouve par là, en Italie? Eh bien, Jérôme, le frère de Napoléon, et Elisa. Il a 61 ans. En décembre, il tousse beaucoup et il doit s'aliter. Bon, depuis tout jeune, il a, de façon latente, la tuberculose qui va se déclarer. Le médecin personnel de Jérôme Bonaparte diagnostique une pleurésie. En fait, c'est la tuberculose qui le rattrape. À cette époque, personne n'est capable de la soigner. D'ailleurs, ses enfants seront aussi tuberculeux. Les enfants sont là en permanence. Le 25 décembre 1820 commence son agonie. À partir de 16 heures, il perd connaissance et il s'éteint le lendemain. Il s'est éteint dans l'indifférence de beaucoup, sauf de ses enfants, à qui il lègue une fortune considérable. À son fils Athanase, c'est son fils Athanase qui l'a fait transporter à la fin du XIXe siècle au cimetière de Ferrières. Il n'avait pas eu le droit d'être enterré en France. Et pour vous raconter la vie de Fouché, je me suis servi du livre d'Emmanuel de Varesquiel parce qu'il a eu la chance d'avoir accès à des archives complètement inédites. Au revoir à tous.